Midi 13h, ravie de vous rencontrer. Sophie Davant sur M Radio.
Bonjour à tous. Après 19 ans passés dans les airs, mon invité part à la conquête de la Terre. Ancien steward de formation, il a décidé de quitter sa compagnie aérienne en 2015 pour se lancer dans une carrière humoristique à 42 ans. Inspiré par sa propre expérience, il tourne comique, parfois même au ridicule, certaines situations dont il a été témoin. Il raconte aussi son histoire, ses origines, son enfance, sa famille, avec un ton et un style très personnel et irrésistible. Propulsé sur le devant de la scène médiatique très rapidement, il entreprend un changement de vie immédiat auquel il s'acclimate plutôt bien, puisqu'il fait aujourd'hui partie de la bande à Ruquier, des Grosses Têtes. Il intervient régulièrement sur Vivement Dimanche de Michel Drucker. Son spectacle à l'Alhambra, Jean-Phi d'école, a cartonné en 2018. Il part en tournée dans toute la France et sera à Bobino les 13 et 17 mars prochains. Aujourd'hui, il est avec nous pour parler de son livre sorti en novembre dernier, Le carnet de vol de Jean-Phi, un retour sur sa carrière de 19 ans en tant que steward. Jean-Phi Janssen est mon invité aujourd'hui. Je suis ravie de vous rencontrer, Jean-Phi, et de vous découvrir à travers les rencontres importantes qui ont jalonné tout ce parcours auquel on va s'intéresser ce matin. Bonjour.
Bonjour, et moi je suis ravie également d'être avec vous aujourd'hui.
Alors, ce livre, donc, c'est un retour sur votre carrière de steward, une compilation de conseils, d'anecdotes hilarantes, de légendes aériennes ou d'histoires vraies dont vous avez été témoin, et puis d'informations et de bons plans collectés au cours de vos escales. On va en reparler, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêt pour le décollage, là? Est-ce que vous avez relevé votre tablette?
Ah, complet. J'ai relevé ma tablette, j'ai attaché ma ceinture et je suis prêt, paré à mon siège, ouais.
Ça vous manque pas, tout ça?
Les départs me manquent. Non, le métier, non, parce que c'est 20 ans, donc c'est un pan de ma vie. Mais c'est vrai que partir loin et revenir une fois par semaine, ça me plaisait bien. Alors là, je pars, hein, mais en tournée, c'est pas pareil.
Dire que ça plane loin pour vous en ce moment.
Ah oui, ça plane, ça décolle. Mais
et
bon,
pourtant, c'est pas le titre que vous avez choisi. Pour démarrer cette émission, vous avez choisi Amir. J'ai cherché, pourquoi ce choix?
Parce qu'elle correspond, cette chanson, elle sort à peu près au moment où moi je me pose des questions sur ce que je dois faire et je suis le cul entre deux chaises en me disant j'y vais pas et cette chanson, je sais pas, parce que lui il faisait l'Eurovision, il y avait un concours avec cette chanson, donc je me suis dit c'est quand même une belle aventure pour lui aussi et c'est à ce moment-là qu'elle me parle, cette chanson, en fait, ouais, vraiment.
J'ai cherché, c'est le choix de Jean-Phi Janssen, mon invité sur M Radio.
Midi 13h, ravie de vous rencontrer, Sophie Davant sur M Radio.
Et je suis ravie de rencontrer aujourd'hui Jean-Phi Janssen. Alors on va revenir sur votre parcours intéressant, bien sûr. On revient d'abord à votre enfance. Vous êtes né dans le Nord, à Beaufort, dans le Nord de la France. Comment vous dites-vous, dans le Nord?
Dans le Nord.
Dans le Nord.
Le Grand Nord.
Alors vous avez étudié au collège et puis dans un lycée privé à Maubeuge. Parlez-nous de cette famille. Alors le père fait quoi? La maman fait quoi?
Une famille modeste du nord de la France. Mon père était contremaître dans une fabrique de verre et ma mère était représentante de produits de beauté d'abord. Vous savez, dans les campagnes, on fait des réunions à domicile comme les tupperwares et les machins. Là, elle faisait ça avec des produits de beauté qui s'appelaient Auriège. Je me souviens, ça s'appelait Auriège. Et après, elle a eu un magasin de...
J'adore cet accent. Bon, c'est de rigoler, me fait rire déjà.
Après, elle tenait un magasin Saint-Gère, les machines à coudre, parce que ma mère, qui est forte et qui est dans mon point, a très vite compris qu'il fallait qu'elle fabrique ses vêtements elle-même si elle voulait les trouver. Donc finalement, elle est devenue tellement pro qu'elle a ouvert son magasin Saint-Gère et elle a fait ça pendant une quinzaine d'années.
Et alors, combien de frères et sœurs?
On est quatre. Je suis le dernier d'une famille de quatre.
Alors quatre, combien de frères, combien de sœurs? C'est un peu compliqué chez vous, on s'y perd un peu.
Un frère, deux sœurs et moi le dernier, voilà.
Alors frère, deux sœurs. Vous avez fait un coming out assez rapidement?
Non, j'allais rentrer à l'université. Mais le problème est que dans cette famille, j'avais une sœur aussi qui a fait son coming out, donc ça fait beaucoup de coming out dans la même famille.
Qui l'a fait en premier?
Elle, parce qu'elle était un peu plus âgée.
Ouais.
Donc j'ai vu ce que ça pouvait faire déjà, parce que j'en ris aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a 25 ans, quand moi je me prépare à l'annoncer, on le vit pas aussi facilement et ça s'annonce pas aussi facilement qu'aujourd'hui, même si c'est encore compliqué.
Ouais.
Mais elle le dit, je vois un peu les dégâts que ça fait et je me dis, oh là là, ça va pas me faciliter la vie non plus. Finalement, ça m'a ouvert la voie après, parce que mes parents, quand moi je l'ai annoncé, ont dit, ça recommence, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'ils se remettent en cause, forcément, les parents.
Vous en parliez avec votre sœur, elle vous a aidé à faire ce coming out?
Et non, pas vraiment, en fait. Je pensais que ça aurait été quelque chose qui nous aurait rapprochés ou rendu un point complice, mais c'est complètement différent. En plus, le coming out fille et le coming out garçon, même si ça paraît la même chose, mais c'est complètement différent.
Jean-Phi Janssen est mon invité sur M Radio aujourd'hui. Vous avez choisi Boulevard des Airs. Je me dis que toi aussi, alors c'est quand même la chanson de l'année, sacrée aux victoires de la musique. Pourquoi ce choix ?
Parce que j'aime ce groupe, parce qu'il émerge. Moi, j'ai déjà suivi sur l'album Bruxelles, et je trouve que c'est un renouveau dans la variété française, et que avant on taxait de variété ringard, voilà. Et là, je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose, un peu d'électro, un peu voilà.
Et puis ils mettent en avant leur région. C'est peut-être ça qui vous touche aussi.
Ouais, ils sont proches de leurs racines quand même, ouais.
Ouais.
Ils négocient pas avec eux-mêmes, quoi. Ils sont eux. Ouais, c'est ça que j'aime bien.
Boulevard Désert sur M Radio, c'est le choix de Jean-Phi Janssen.
Ravi de vous rencontrer. Le samedi sur M Radio, c'est Sophie Davant.
Et mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Phi Janssen, que je suis ravie de rencontrer et de mieux découvrir à travers les rencontres importantes. On va parler bien sûr de votre parcours et de votre actualité. Alors ce parcours, on en était au DUC d'Allemand à l'université. Comment vous avez l'idée de devenir steward ?
Salut Sophie, mon précepte de vie, c'est l'aventure est au coin de la rue. Et toute ma vie a été régie par ce proverbe. Au moment où j'ai fini mon doc d'allemand, j'ai fini à l'université, j'ai dit c'est bien, mais qu'est-ce que je vais faire avec un doc d'allemand? Je voulais pas du tout être enseignant, je voulais pas être interprète, je voulais pas faire un métier avec de l'allemand. Enfin, donc je me suis dit j'ai juste un niveau. Et à ce moment-là, j'ai dit bah tiens, faisons autre chose. Je voulais pas travailler tout de suite. J'ai dit je vais faire un BTS action commerciale. Et donc c'était un truc qui faisait moitié entreprise, moitié école. Ça m'allait bien. J'étais pas encore dans la vie active, mais j'y goûtais un petit peu.
Dans votre famille, tous les enfants avaient fait des études ?
Non, je suis le seul, je crois.
Ouais, c'est ça, vous
êtes le seul. Parce que mes frères et sœurs, c'était l'époque où ils s'arrêtaient au brevet des collèges et après ils partaient en apprentissage ou je ne sais quoi. Enfin, c'était un modèle qui était complètement différent du mien. Et en plus,
vous avez fait des études ?
Parce que je les ai vus galérer. Et comme moi j'étais le dernier, j'ai dit je veux pas que ça m'arrive à moi. Donc ça m'a donné la force moi d'aller jusqu'au bac. Dans la famille j'étais le seul, et en plus de faire un cycle universitaire. Je voulais pas faire un métier manuel. Je voulais pas rester dans le Nord à ce moment-là parce que c'était compliqué pour moi dans mon schéma de vie. Du coup alors j'ai fait ce BTS action commerciale après mon doc d'allemand. Et là je suis parti. Il fallait que je trouve une entreprise pour travailler. Et j'ai trouvé une entreprise, mais cette entreprise m'a amené à une vie dans le Sud. Donc j'ai rencontré quelqu'un. Je suis parti dans le Sud. Donc je faisais moitié école et moitié vie dans le Sud.
Et vous faisiez quoi alors là ?
Je vendais du prêt-à-porter féminin haut de gamme. Donc tu vois, c'est déjà plus dans mon rayon quand même. Hein.
Et alors, c'est des bons souvenirs ?
Ah ouais, je me suis éclaté à vendre des robes et des jupes.
C'est vrai ?
Et ça marchait bien, en plus c'était du haut de gamme. En plus, j'avais créé, en hommage à ma mère, un petit rayon grande taille, parce que je me rends compte de la difficulté que c'est que de trouver des grandes tailles dans les magasins et chez les fabricants. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques années, sauf que j'étais très bon vendeur, mais très, très mauvais gestionnaire, que j'ai vite confondu tiroir caisse et bénéfice, que mon petit copain était un petit peu véreux. Donc au bout de 4 ans, j'ai fait faillite. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et c'est une copine qui est une cliente du magasin qui m'a dit, moi je trouve que t'as une belle allure de steward. Et sur ces mots, j'ai dit, bah oui, tiens. Mais j'étais jamais monté dans un avion avant d'entendre ces mots.
Non, alors vous allez voir que là, c'est irrésistible. On va revenir sur cette expérience de steward dont vous vous inspirez largement quand même sur scène. Et on aura le plaisir de vous retrouver bientôt à Bobino au mois de mars, les 13 au 17 mars. Je le faisais sauter un jour. Mais tout de suite, on va écouter Calogero, c'est votre choix. Un jour au mauvais endroit. Bah, c'est pas ce que vous racontez, vous. Apparemment, vous avez profité du hasard dans votre vie.
Un jour au bon endroit. Mais cette chanson, comme c'est une chanson hommage, je trouve bien qu'il y ait des artistes qui se penchent encore sur des choses qui marquent la société.
Calogero sur M Radio.
Midi 13h, ravie de vous rencontrer. Sophie Davant sur M Radio.
Et je suis ravie de rencontrer et de mieux découvrir aujourd'hui Jean-Phi Janssen. On parle avec lui de son spectacle Jean-Phi d'école. Il sera du 13 au 17 mars à Bobino. Et puis du livre Jean-Phi que vous avez sorti au mois de novembre. Le carnet de vol de Jean-Phi. Alors là, c'est un régal. Assez hilarant. On revenait, tiens, sur cette envie de devenir steward. Vous n'y aviez pas forcément pensé. Qui plus est, vous n'étiez jamais monté dans un avion.
Non. Non, c'est juste sur mon imaginaire et sur ce qu'on m'a dit. Je me suis dit, bah tiens, donc j'ai commencé à faire la formation pour devenir steward, formation théorique et pratique. Et puis après, il y a eu les premiers vols quand je suis rentré dans la première petite compagnie aérienne, parce que je suis pas rentré en France tout de suite. La première fois que je suis monté dans l'avion, tout l'enjeu était de faire croire que je maîtrisais très bien mon environnement aux gens, alors que j'étais juste un pingouin en dimanche dans mon uniforme et que je maîtrisais pas du tout l'environnement.
Alors, vous avez dû un peu gommer votre accent et de temps en temps, c'était plus fort que vous, ça revenait.
Au début, je le gommais parce que je voulais vraiment adaptée. Puis en plus, c'était ce qu'on me demandait. Hein. Enfin, ça n'allait pas. Mais très très vite, en fait, j'ai remarqué que cet accent, je l'ai revendiqué parce que les gens, ça les détendait et ça rendait les choses plus authentiques et ça moins formelles. Voilà. Et même quand je travaillais en première ou en business dans l'avion, les gens, s'il y avait une petite pointe d'accent, ça leur donnait le sourire. Je me suis rendu compte du pouvoir comique de cet accent et puis que ça m'a permis de désamorcer tellement de conflits à bord.
Des conflits?
Bah oui, bah, les gens ils s'énervent parce que ils ont loupé leur correspondance ou que leur valise n'allait pas arriver. Il y a toujours un truc, hein, il y a toujours un souci dans l'avion. Alors après, on a des réponses toutes prêtes, mais si vous mettez juste une pointe d'accent, comme ça, quand vous allez voir, les gens ils se disent, bon, bah, il est de bon cœur et je me mettais en quatre pour eux en plus. Donc,
j'imagine que vous deviez faire le show au micro, là, ça devait durer des heures, non?
Bah, finalement, oui, c'était mes premiers publics, je me suis testé. Et en plus, c'était bien, Sophie ne pouvait pas sortir, les gens, c'était obligé de m'écouter. Donc on a commencé comme ça et c'est vrai que très vite je me suis aperçu. Donc je prenais le micro, je faisais rire mes collègues. Sur 15 heures de vol, je faisais rire, j'occupais les gens, je les faisais rire.
Alors le premier vol, racontez-nous, parce qu'il y a eu un bizutage quand même.
Oui, oh oui. Mon premier vol à Air France, le commandant de bord m'a fait croire que le train d'atterrissage ne voulait pas sortir et que pour le faire sortir, il fallait que j'aille au milieu de l'avion, au niveau des ailes, et que je me mette à sauter pour faire sortir le train. Et donc j'y suis allé. Et quand vous commencez dans l'avion, vous êtes persuadé que ce que le commandant de bord a dit, c'est vrai. Vous ne remettez pas ça en cause. Et il a dit tellement sérieusement, je dis bon bah ça doit arriver. Hein, et moi je connaissais pas trop là. Donc je suis allé au milieu, je sautais. Donc les gens me regardaient bizarre, tu vois. Ils me disent mais qu'est-ce qu'il fait? Et moi je sautais de plus en plus fort, persuadé que j'étais en train de sauver la vie des gens. Hein, en disant, ouais, ça va aller. Et puis le commandant il est plus fort et puis il dit ça y est c'est bon les sorties voilà et après ils se sont bien foutus de moi.
Alors vous avez choisi Balavoine, le chanteur.
Ouais, parce que bah justement c'est une chanson qui me parle comment un artiste émerge et comment il dure.
Daniel Balavoine, le choix de Jean-Phi Janssen sur M Radio.
Midi 13h, ravie de vous rencontrer. Sophie Davant sur M Radio.
Alors j'adore moi découvrir mes invités à travers les rencontres importantes de votre vie, en l'occurrence Jean-Phi Janssen. Là vous avez sorti au mois de novembre le carnet de vol de Jean-Phi. Alors c'est un guide de voyage, alors évidemment très comique, plein d'infos pratiques, d'anecdotes rigolotes et de plaisanterie aérienne. Là, on parlait à l'instant de votre premier vol, de votre baptême de l'air. Il se trouve que c'était la première fois que vous preniez l'avion quand même.
Ouais.
Donc ça arrive, vous étiez complètement terrorisé, j'imagine.
Bah, pas terrorisé, mais très anxieux en fait, en me disant mais il y a plein de trucs que je maîtrise pas et puis on apprend sur le tas. Mais c'est beaucoup de tension, c'est de la tension permanente et puis en plus satisfaire les gens, enfin c'est quelque chose de terrible puisque les gens comptent sur vous en plus. Donc.
Alors il y a plein de rubriques comiques et ludiques qu'on retrouve tout au long du livre, le saviez-vous par exemple, les cachublots par exemple.
Oui.
Moi je savais pas qu'ils devaient être relevés.
Ah, au décollage et à l'atterrissage.
Pourquoi?
Bah parce que ça nous permet d'avoir une visibilité complète sur l'extérieur de l'avion au cas où il se passe quelque chose. C'est à ce moment-là où on peut voir. De même que baisser l'intensité lumineuse de la cabine, les gens demandent toujours pourquoi on les met dans le noir. C'est pour préparer votre œil au cas où il y aurait une évacuation d'urgence,
que
votre
œil
soit préparé à la même obscurité qu'à l'extérieur.
C'est vrai?
Oui.
Bah, je savais pas, moi je pensais que c'était pour économiser de l'énergie, pour que l'avion ait suffisamment pour décoller.
Ouais.
Non, c'est pas pour ça.
Donc vous voyez, il y a quand même des vraies infos. Hein.
Bien sûr. Parce que
c'est un bouquin, c'est vraiment un livre d'humeur.
Qu'est-ce que vous en gardez de ce métier de steward? Il y a une rencontre importante pour vous, c'est une dame qui s'appelle Cynthia.
C'est ma formatrice, en fait. C'était une formation stricte. Air France, c'était un truc d'austère. Il y a un truc du chic français à l'étranger, vous voyez, des notions. Du coup, c'était une caricature. Et j'en parle dans le spectacle. J'ai un personnage de Cynthia qui est la vieille instructrice méchante, qui en plus n'accepte pas de vieillir. Comme souvent dans les avions, les hôtesses n'acceptent pas de vieillir. Donc, elles s'en prennent aux petites jeunes, elles les font pleurer.
On va en parler, on va revenir sur cette carrière. Vous avez choisi Claudio Capeo, riche. Pourquoi?
Parce que c'est une chanson qui me parle, c'est une chanson que j'ai eu l'occasion, sur laquelle j'ai eu l'occasion de faire une valse dans Danse avec les stars, et je peux dire que j'en ai chié pour apprendre cette valse, mais que cette chanson elle m'a parlé beaucoup, et qu'en plus avec la valse, ça a été beaucoup d'émotions, donc cette chanson reste un bon souvenir, elle me parle.
C'est le choix de Jean-Phi Janssen.
Ravi de vous rencontrer. Le samedi sur M Radio, c'est Sophie Davant.
Et c'est Jean-Phi Janssen que je suis ravie de rencontrer aujourd'hui sur M Radio. Un concours d'humoriste auquel vous inscrit une copine, donc Jean-Phi. Et vous êtes quoi, 900 au départ?
Ouais.
Et c'est vous qui arrivez en finale? C'est vous qui le gagnez?
Non, je ne gagne pas. Je suis finaliste, je ne gagne pas. C'est juste pour me. Mais ça m'a donné quand même un message fort, c'est je suis quand même allé jusqu'en finale. Donc j'ai commencé à écrire mes autres textes, à aller jouer sur les petites scènes parisiennes, hein, et c'est des petites scènes cuisine ouverte qui est un peu partout, même dans des fonds de cave. Hein. Et on était 3-4, mais j'avais un retour immédiat et je voyais bien que ce que je disais plaisait aussi aux gens de l'extérieur. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Au début, je jouais dans un petit théâtre qui avait 30 places, qui s'appelait The Artist, à Paris. Mais 30 places, c'était un garage. Et c'est mes copains, mes collègues d'Air France qui ont rempli la salle pendant quelques mois parce qu'ils croyaient en moi.
Ah ouais, alors, parce que là, vous avez été prudent. Vous avez pris un congé de 3 ans quand même, par sécurité, pour voir ce que ça donne.
Oui, 3 ans sans solde. Mais c'était quand même un filet de sécurité en disant... parce que quand j'ai dit à mes parents, hein, vous me rendez compte, mon père syndicaliste toute sa vie, ma mère qui avait travaillé, quand je leur ai dit, pour eux, quand déjà rentré Air France, c'était comme si j'étais à Polytechnique, hein, c'est pareil. Et quand j'ai dit, je vais faire artiste, mon père il m'a dit, mais il est cinglé. Il dit, l'autre, il est fonctionnaire, il va faire saltimbanque. Ouais. Voilà, donc pour eux et pour moi, j'ai gardé cette sécurité. Mais quand même, tout l'enjeu était de vivre sans solde, c'est-à-dire qu'il fallait vivre du théâtre maintenant.
Elle est contente, votre mère, que vous soyez devenu artiste, que vous ayez prolongé finalement son talent perso, ouais. Puisqu'elle fait rire la famille.
Elle est fière, elle est vraiment fière, parce que elle, c'est toujours la première à y croire. Elle était sûre qu'il se passerait un truc, même si on a les doutes, hein, parce que même moi, il n'y a pas plus aléatoire qu'une carrière artistique. Mais aujourd'hui, je la fais monter sur scène, elle est fière.
Comment vous rencontrez Laurent Ruquier? Parce que ça a été une rencontre essentielle pour vous.
Ah, formidable, ouais. C'est Vincent De Dienne, à qui j'avais fait quelques festivals en province, lui montre, qui est produit par Laurent, lui montre une vidéo de moi sur le coming out. Et Laurent me dit aujourd'hui, il m'a dit, j'étais dans ma chambre à Avignon et j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait rire, ça m'a fait beaucoup rire. Il me dit, donc il a envoyé sa collaboratrice qui est venue me voir à Avignon jouer et la collaboratrice, Sophie, m'a attendu à la fin en me disant, Laurent Ruquier aime beaucoup ce que vous faites et moi j'ai beaucoup aimé le spectacle. Et j'étais très content et en fait c'est lui qui, en septembre de la même année, m'a rappelé et m'a dit, ma collaboratrice a vu votre spectacle, moi j'ai vu des vidéos, je pense que votre humour et les grosses têtes, il y a un truc à faire, je suis sûr que ça colle, je voudrais faire un essai. Et moi je lui dis, mais monsieur Ruquier, j'ai dit, les grosses têtes, l'institution française, moi je sors de nulle part, pour les gens, médiatiquement je ne suis pas connu, ça va être compliqué. Et il m'a dit, justement. Et c'est justement que je suis allé faire mon essai aux grosses têtes. Et en sortant de la première émission, il m'a dit, j'étais sûr que ça le ferait, bienvenue aux grosses têtes. Et en des émissions, ma vie avait changé.
Vous avez choisi France Gall, Résiste.
Ouais. Parce qu'il faut toujours croire en soi, même quand on doute. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ça n'a pas été que comme ça. Il y a eu des périodes de disette, de choses qui n'étaient pas évidentes. Mais je savais qu'au fond de moi, il y avait un truc qui n'était pas, j'avais pas tout dit. Donc, je croyais en moi. Il faut toujours croire, il faut résister, ouais.
France Gall sur M Radio, c'est le choix de mon invité Jean-Philippe Janssen.
Ravi de vous rencontrer, Sophie Davant sur M Radio. Les 5 dernières questions.
Très émue de rencontrer Jean-Philippe Janssen aujourd'hui. Alors attention, l'exercice des 5 dernières questions, Jean-Philippe. Si on vous donnait une baguette magique, là, tout de suite, qui aimeriez-vous rencontrer dans l'absolu, disparu ou vivant?
Madonna. C'est très cliché, Madonna.
Madonna. Ouais. Madonna. Pourquoi?
Parce que c'est un symbole pour moi. Ça a bercé mon enfance et ça m'a permis de m'exprimer et ça m'a beaucoup aidé dans ma sensibilité de mon coming out, de choses comme ça. C'était au moment où Madonna émergeait. C'est les Madonna, Michael Jackson, c'est ma génération.
Ouais.
Et donc je pense que Madonna, moi, j'aimerais bien lui dire que grâce à ses extraversions, ça m'a permis moi de passer le cap et de pouvoir dire les choses. Ouais, ça m'a donné du courage.
Parmi vos chers disparus, qui aimeriez vous retrouver?
J'aimerais bien retrouver mon frère.
Ouais. Lequel? La fratrie?
Mon frère aîné. J'aimerais bien retrouver mon frère qui n'est plus là aujourd'hui.
Qui est décédé de quoi?
Il y a eu un accident quelques années et donc je m'occupe beaucoup de ses enfants parce qu'il nous a laissé des enfants, mais il y a des choses qu'on pense à, et puis tout ce que je vis aujourd'hui, j'aimerais bien le partager et le dire en fait.
Il ne l'a jamais connu, votre succès?
Non. Non, non.
Vous étiez particulièrement complice avec lui?
Proche, j'étais très proche de lui. Ouais. On est une famille où on est assez proche, hein, donc c'est les familles du Nord, on se dit des choses, donc c'est pareil, c'était un déchirement. Mais là, du coup, je suis content de voir qu'il y a la famille, il y a ses enfants, il y a la continuité. Et maintenant, aujourd'hui, il aurait eu un petit-fils, puisque mon neveu a eu un enfant. Donc c'est tout ça. Il y a des choses qu'on aurait voulu dire qu'on n'a pas dit. On dit ça.
Quelle est la rencontre de votre vie?
Alors déjà, la rencontre avec Laurent Ruquier, c'était très important parce que ça a été le changement, ça a été un cap amorcé. Je crois que c'était ça, la rencontre artistique. Et après, sinon, c'est cette femme, Marie-Christine, qui m'a embauché Air France il y a 20 ans, qui m'a donné ma chance, alors qu'on voyait très bien qu'au départ, j'avais rien à foutre dans un avion, en fait.
Quelle est la plus belle rencontre avec vous-même?
C'était ma première grosse scène en fait. Et c'était il n'y a pas très longtemps, c'était au Zénith de Caen. Et c'était mon premier Zénith. Et, Et là, j'étais très, très impressionné à l'intérieur de moi-même en me disant, mon Dieu, mais c'est pas possible. Et de voir la ferveur des gens. Et je me suis dit, il y a un truc de moi qui aime ça, mais pas pour le côté succès, mais pour le côté, j'avais l'impression de faire du bien aux gens, en fait.
Si vous croisiez le petit Jean-Phi, un petit Jean-Phi de 5 ans, vous lui diriez quoi ?
Surtout qu'il refasse tout dans le même sens, mais qu'il ne s'excuse pas d'être là, en fait. Je crois que j'étais très... très timide. En fait, le fait de faire rire et de me tourner en dérision, c'était une façon de parler de moi ou d'intégrer des groupes sans avoir à parler de moi. Donc, j'avais beaucoup de... Je me dirais aujourd'hui, si je voyais Jean-Philippe de 5 ans, je dirais n'est pas de complexe physique.
En tout cas, moi, je comprends pourquoi vous plaisez au public et pourquoi vous les touchez et pourquoi vous les faites rire. J'étais très émue de vous rencontrer, monsieur Janssen.
Et moi, très émue de partager ce moment avec vous, Sophie, d'avant.
Merci d'être venue me voir. Le carnet de vol de Jean-Phi est sorti au mois de novembre aux éditions Michel Lafond. Et puis surtout, allez l'applaudir à Bobino du 13 au 17 mars prochain. Merci. Gros bisous.
Merci, Sophie.
Ravie de vous rencontrer avec Sophie Davant. C'est à réécouter dès maintenant en podcast sur mradio.fr.